Aujourd'hui, je vous emmène à la campagne. Ouvrez la fenêtre ou rendez-vous dans votre jardin. Prenez le soin de vous asseoir confortablement et laissez-vous aller. Imaginez-vous dans un transat. Vous êtes détendu. Vous sentez le tissu tendu au contact de votre corps. Il épouse vos épaules, votre dos, votre fessier et vous procure la sensation d'être en vacances, en grandes vacances. Celle que l'on attend avec impatience. Celle qui rime avec soleil, baignade, promenade à l'ombre des feuillus, petite brise qui caresse les joues et les jupes. Cette légère respiration d'éole arrive jusqu'à votre transat. Les rayons du soleil, quant à eux, ne vous atteignent pas directement, car vous avez pris soin de placer votre transat à l'ombre des platanes. En tendant l'oreille, vous percevez le bruit de l'eau dont le mouvement est continu. Plus vous vous concentrez sur ce bruit, plus il vous paraît proche. Il n'a rien de maritime, ni rien de paisible comme le serait celui d'une tranquille rivière. Cette eau tombe en cascade près du moulin qui enjambe la rivière Aveyron, et la coupable de cet écoulement sonore n'est autre que la chaussée qui dévie les eaux de son cours naturel. Le moulin a fière allure. Depuis votre transat, vous l'apercevez au loin. Les tons chauds de ces briques se reflètent dans l'eau mouvante de la rivière et ses nombreuses ouvertures sont comme de tout petits rectangles sombres qui se déforment au gré des ondes. Il semble être le témoin de plusieurs générations. Mais ce vieux gribou de presque 200 ans n'est plus aussi actif qu'autrefois. Il n'a plus de grains à se mettre sous la dent, comme s'il avait pris sa retraite en somme. Sa présence est cependant rassurante et justifie tout le plaisir qu'ont les pêcheurs à attraper le poisson blanc dans un si bel écrin de nature. Face au moulin, sur la ligne d'horizon séparant la rivière de la végétation luxuriante des berges, un autre moulin, moins imposant que le premier, se devine derrière le feuillage du platane situé devant vous. Vous laissez votre main tomber au sol et caressez l'herbe fraîche. Vos doigts s'entortillent dans les brins les plus épais et croise quelques pâquerettes qui ont poussé ça et là. Pendant ce temps où gestes et conscience sont dissociés, votre regard balaye le panorama. Le moulin, toujours face à vous sur la ligne d'horizon, n'a pas bougé. À sa gauche, au bord de l'eau, un muret sépare la rivière de plusieurs habitations aux toits rouges, presque incandescents. Derrière le moulin, si on lève un peu la tête, on aperçoit le toit plus sombre d'une grande bâtisse. Ce toit tranche avec les autres. Sa couleur se rapproche des tons du ciel. De l'ardoise, sûrement. Peu importe. Il y a mieux à contempler que ces architectures inertes. De nombreuses jeunes gens profitent, comme vous, de cette parenthèse bucolique, et le spectacle est plus que plaisant. Sur la plage de sable, il n'y a plus personne en revanche. Vous regardez votre montre. Il est 14 heures passées. Les vieilles gens sont à la sieste. Les enfants aussi, et ceux qui ne se sentent pas concernés par cet appel au repos, préfèrent de loin l'ombre des platanes à la chaleur d'un soleil de juin. Juin 1935, déjà. Dans quelques jours aura lieu la fête de la Saint-Jean. Cela vous donne encore plus chaud. Heureusement que Monsieur Soleil joue à cache-cache avec quelques cumulus de temps à autre. Vous concentrez à nouveau votre attention sur ce qui se passe près de vous. À quelques mètres seulement, devant vous, une bande de copains est venue jouir d'un dimanche à Ardus. Il n'est pas nécessaire de consulter un calendrier pour savoir que c'est le dernier jour de la semaine. Vous qui vivez en haut, au village, vous savez bien que si vous ne souhaitez croiser personne, il ne faut pas descendre à la plage un dimanche, surtout au beau jour. Les enfants du quartier, Gustave, sa petite sœur Jacqueline, mais aussi les petites filles du boulanger, Simone et Thérèse, courent dans tout le village en criant à tue-tête que les gens de la ville arrivent. Ils parlent de l'autocar qui, tous les dimanches, part de la cathédrale de Montauban pour emmener les citadins à la plage d'Arlus. Il ne fait aucun doute que la dizaine de jeunes gens que vous avez devant vous a pris cet autocar. Des filles, des garçons, tous enorgueillis par l'audace de leur jeunesse, bavardent, s'amusent, s'enivrent du vin qu'ils ont apporté avec leur pique-nique. Ils respirent le bonheur, l'insouciance de ne pas avoir connu la guerre. Ils sont pleins d'ambition et incarnent avec force les idées de leur temps. En prêtant l'oreille, un jeune homme et une jeune femme sont en train d'échanger leur point de vue sur la percée des politiques autoritaires et sur la nécessité d'une gauche unie. Lui est persuadé que la victoire de la gauche aux dernières municipales est le signe indiscutable d'un désir de changement et d'avancée sociale. À chaque fin de phrase, il tire une longue bouffée sur sa cigarette, comme pour donner le change. Entre les deux jeunes gens, une table, sur laquelle une bouteille est posée. Le contenu de celle-ci s'amenuise au fil de la discussion, et les deux verres sont constamment en attente d'une nouvelle rasade. La jeune femme, elle, est plus passive. Elle a le coude gauche posé sur la table en fer, et le revers de sa main gauche est posé contre sa joue. À bien y regarder, cette posture aurait pu passer pour une attitude distinguée si vous ne vous étiez pas attardé sur le fait que la main soutenait clairement un visage fatigué et que le poids du corps tendait à aller sur l'avant, s'éloignant petit à petit du dossier de la chaise. Elle semble subir un discours un peu trop indigeste et lutte contre l'envie d'aller rejoindre son amie allongée dans l'herbe. À gauche de ce duo, toujours face à vous, mais cette fois-ci de profil, un autre duo qui, par l'attitude, a tout l'air d'un couple. La jeune femme porte une robe légère dont la couleur rose clair se confond avec la carnation de sa peau. Elle porte au pied des escarpins blancs et à la main droite son chapeau, sorte de capeline rustique, semblable à celle de la jeune femme en train de converser. De son autre main, elle presse l'épaule de son compagnon, tandis que lui a une main posée sur le bas de son dos. Debout tous les deux, ils regardent le groupe attablé sous le platane. Le jeune homme les appelle. Il tend le bras et agite la main pour leur signaler leur présence. Ça y est, quelqu'un se retourne. « Ah, mais vous le connaissez, ce beau jeune homme! Il vient souvent traîner par ici avec Cadène, le peintre. De plus de 25 ans son aîné, il s'installe tôt le matin en général et le peintre lui apprend des techniques de dessin en observant des baigneurs, des pêcheurs ou bien des paysans au travail. Ça doit être eux alors qu'on surnomme la bande à Cadène. Tous ces jeunes gens amateurs d'art, de musique et de poésie. La fine fleur de la jeunesse montalbanaise. Au-dessus du jeune apprenti peintre se balance une jeune femme. Bien assise sur la planche de bois de l'escarpolette, elle tient fermement les cordes de celle-ci dont les extrémités sont enroulées à une solide branche du platane. Son amant la pousse joyeusement et d'où vous êtes, vous avez l'impression qu'elle vole au-dessus de l'eau. Ses pieds, nichés dans des escarpins blancs, sont à la hauteur de la tête d'un pêcheur. Il ne s'en soucie guère et continue son activité, debout, dans un grand canot de bois semblable au périssoir du peintre Caillebotte. De ces canots, la plage en est jonchée. Certains flottent totalement sur l'eau, tandis que d'autres ont la tête dans la rivière et les pieds au sec sur le sable, protégés par un rang de platanes. L'unique slip que le jeune pêcheur porte et son léger déhanché traduisent toute la tranquillité de son après-midi. Les fines chaussures blanches reviennent au niveau de sa tête. Vous vous rendez compte que la perspective vous joue des tours et que le jeune homme à la tenue minimaliste est à plusieurs mètres plus loin. Vous contemplez à nouveau la scène et vous vous surprenez à rêvasser devant la fraîcheur que procure une jeune femme qui se balance, qui joue avec les zones d'ombre et de lumière entre le feuillage du platane. Sa robe d'un jaune presque moutarde épouse les courbes de son corps à chaque poussée et se gonfle d'air quand elle revient vers les mains de son aimé. La direction de son regard nous intrigue. Il n'est ni fixé sur son amant, comme on le fait dans les jeux de l'amour jusqu'à en avoir le tournis, ni fixé sur l'avant comme les petites filles qui cherchent à toucher le ciel. Ses yeux, comme ceux de deux autres demoiselles assises à la grande table sous le platane, sont rivés sur un événement qui semble se dérouler derrière vous sur votre droite. Qu'importe, vous n'avez pas envie de vous tordre le cou. Vous restez bien assis dans votre transat. À nouveau, vous effleurez l'herbe avec votre main droite. Vous vous concentrez sur le brouhaha de l'eau qui tombe de la chaussée au pied du moulin et sur les bribes de discussions politiques de la table devant vous. À cela viennent s'ajouter le son régulier du corps balancé de la jeune femme qui vient fendre l'air à chaque poussée et les quelques notes de musique d'un instrument qu'on ne voit pas beaucoup par chez nous. Ah, ces jeunes gens. Depuis quelque temps, ils ne jurent que par le jazz. Le jazz, qu'ils disent. C'est la mode, il paraît, et ça vient d'Amérique. Les mains s'agitent partout sur les cordes des instruments, et à Paris, on applaudit avec passion Monsieur Reinhardt. À la grande table, la jeune femme aux cheveux détachés joue du banjo. On sent bien qu'elle tâtonne encore, qu'elle joue lentement, bien plus lentement que ce qu'il raconte sur les musiciens parisiens. Mais la mélodie est agréable. Les notes qui sortent de cet instrument au corps tout rond nous font penser à un univers innocent, naïf, comme l'est celui d'un enfant. Un univers d'espérance, de réjouissance, de jeu. Et pourtant, bientôt, il faudra penser à rentrer. Le pique-nique est consommé depuis un petit bout de temps. Sur la nappe blanche de la grande table, tout est vide. Les verres, les assiettes. Mais la coupe est encore pleine de fruits, comme s'ils n'avaient pas été touchés. Au pied de la dernière jeune fille, la plus distinguée d'entre toutes, une autre nappe blanche jonche l'herbe avec dessus les restes du pique-nique. Telle une nature morte, un panier, une bouteille, une bonbonne d'eau en terre cuite, des ombrelles et un chapeau se côtoient, comme s'il y avait eu un avant sur ce petit périmètre herbeux. Le dernier personnage de la scène est un animal, à mi-chemin entre le chien et le loup. Il vous est difficile de le cerner, comme si sa présence ne cadrait pas avec toute la beauté de cet après-midi champêtre. Il est certes tranquille, comme un chien fidèle allongé au pied de ses maîtres, mais il pourrait tout aussi bien être l'ombre au tableau, la présence inquiétante dans cette scène de vie lumineuse, comme le présage d'un futur obscur dans lequel ces jeunes gens de 20 ans perdront l'insouciance de ce dimanche à Ardus. Nous sommes arrivés au bout de notre voyage autour de cette œuvre. Avez-vous deviné de laquelle il s'agit? C'est le déjeuner à Ardus. Huile sur toile de 3,20 m sur 2,20 m, peinte par Lucien Cadenne en 1935. Commandée par la municipalité de l'époque, elle fut d'abord exposée à la Maison du Peuple de Montauban, avant de se retrouver à l'accueil du musée Ingres, puis à l'accueil du Centre d'interprétation, d'architecture et du patrimoine. La bande de jeunes représentée sur ce tableau pourrait tout à fait correspondre à celle qui se serait constituée sous l'impulsion du poète Georges Herman et qui fréquentait les cercles artistiques montalbanais, notamment celui du jazzman Hugues Panassier, qui s'installa à Faubourg du Moustier en 1941.